Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Victor Grèze, responsable du pôle vote de la primaire populaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous allons expliquer ce qu'est cette primaire populaire. Il s'agit d'une élection pour désigner la personnalité la plus à même de porter les valeurs écologiques, démocratiques et sociales lors de l'élection présidentielle. Au moment où l'on se parle, il y a 7 candidats de gauche déclarés, mais aucun n'est en capacité d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Cette primaire, elle a été imaginée bien en amont pour créer une dynamique autour d'un ou d'une candidate unique.
Oui, tout à fait. C'est un projet qui existe depuis un peu plus d'un an, qui a été initié par différents collectifs de citoyens. Et qui se sont regroupés avec une idée et surtout un constat, c'était de voir que dans tous les scénarios possibles, et encore aujourd'hui, hein, donc on ne s'était pas trompé, a priori la gauche, ce que certains appellent la gauche, ce que certains autres appellent le bloc des justices, en tout cas tout ce qui est sur la gauche d'Emmanuel Macron sur l'échiquier, n'avait aucune chance de passer au deuxième tour, et qu'on était dans tous les cas dans un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, maintenant potentiellement Éric Zemmour, potentiellement Valérie Pécresse, mais cette idée que tout ce qui était à gauche de l'échiquier n'avait aucune chance de passer, et on ne voulait pas se résoudre à ça. Et un des constats, c'est que si cette gauche n'arrivait pas à passer, c'est avant tout parce qu'elle était divisée, alors qu'en réalité il y a quand même un ensemble de points qui est très important, qui fait consensus entre ces personnalités. Et donc notre objectif, c'était de dire, travaillons d'abord sur les points qui peuvent faire consensus pour voir combien il y en a et lesquels ils sont. Et puis dans un deuxième temps, proposons aux citoyens de faire finalement un premier tour avant le premier tour, donc une grande primaire, pour identifier la personne qui est la mieux placée pour porter ses valeurs avec les autres, pour avoir une chance de passer au deuxième tour.
Alors cette primaire est parrainée par de nombreuses personnalités, je pense à Noël Mamère, lui-même ancien candidat à l'élection présidentielle. Il y a aussi Cédric Herrou qui défend les droits des migrants, le philosophe Abdennour Bidar, le réalisateur Robert Guédiguian. Vous sentez chez les intellectuels, les artistes, les militants d'associations, une envie d'unité à gauche ?
Déjà, il n'y a pas que ces personnalités que vous avez citées, hein. Il y a près de 150 aujourd'hui personnalités ou figures qui soutiennent le projet, avec également des politologues, effectivement, des économistes, des éleveurs, des éleveuses, des nutritionnistes. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a un engouement de la part d'un certain nombre de personnes qui sont des relais aujourd'hui auprès de différents cercles, de différents groupes. Mais là où il y a vraiment un engouement, c'est les personnes qui soutiennent et qui appellent à une grande primaire populaire, parce que au-delà de ces 100-150 personnalités qui soutiennent la primaire populaire, c'est avant tout un appel des citoyens. Et sur notre site aujourd'hui, depuis quelques mois, on a mis en place un appel, une sorte de pétition pour faire advenir le projet, et on a dépassé le seuil des 300 000 personnes qui appellent à l'organisation de cette primaire populaire. On a près de 5 000 personnes qui sont des bénévoles aujourd'hui dans une cinquantaine de groupes locaux qui font vivre ce projet et qui font amplifier cette mobilisation. Donc il y a un engouement de la part des personnalités, oui, mais surtout de la part des citoyens. Aujourd'hui, l'objectif, c'est donc maintenant de transformer cet engouement-là en une réalité, notamment pour les candidates et les candidats qui sont candidats officiels à la présidentielle et qui n'auraient pas encore compris l'intérêt de ce processus.
Victor Grèze, vous avez donc créé une plateforme internet où tous les Français peuvent s'inscrire pour participer au vote. On expliquera tout à l'heure les modalités, mais ce qu'on peut préciser, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de voter pour une personnalité, mais aussi de s'entendre sur un programme que vous avez appelé un socle commun. C'est une base de travail qui est commune à tous les candidat de l'échiquier politique à gauche.
Oui, alors on ne parle pas de programme, mais on parle bien de socle commun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'était pas que de faire les Miss France de la gauche pour la présidentielle ou de dire on vote sur sur des personnalités uniquement. L'objectif, c'est de parler d'idées, de parler du fond. Et donc effectivement, on a réuni entre avril et mai cette année une dizaine de forces politiques à raison de 4 heures par semaine pendant 5 semaines, donc un gros travail. Pour voir quels sont les points qui font consensus et faire émerger effectivement un certain nombre de mesures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à mettre tout le monde autour de la table, d'une part, mais on a réussi aussi à leur faire tomber sur ce qu'on appelle donc ce socle commun, qui est un ensemble de 10 grandes mesures de rupture qui, théoriquement, rassemblent l'ensemble des partis, mais qui sont aussi issus de la société civile, puisque la base de travail, ça a été les revendications des mouvements sociaux de ces dernières années, des jeunes pour le climat, des luttes sociales, féministes, antiracistes, des syndicats, des gilets jaunes. Et donc on a mis tout ça sur la table avec une dizaine de partis, CAP Écologie, Europe Écologie Les Verts, Gauche Démocratique et Sociale, Génération, La France Insoumise, le Parti Socialiste, etc. Et on a réuni ces grandes propositions sous 3 thèmes, pour une république écologique, pour une république sociale et pour une république démocratique, avec des grandes ambitions. Et donc l'objectif pour nous, c'est que la personne qui remportera la primaire populaire, eh bien, doit, pour avoir le soutien de la primaire populaire et l'engouement qui en suivra et les forces militantes, si on peut dire, qui vont avec, eh bien, devra s'engager à reconnaître et à défendre ce socle commun une fois qu'elle aura gagné la présidence.
Donc ce qui est intéressant, Victor Gray, ce que vous nous expliquez, c'est que vous avez d'abord évoqué le socle commun programmatique. Tous les partis ont accepté de discuter, mais pour l'instant, les candidats ne sont pas encore arrivés pour participer à cette primaire. Et vous avez bon espoir qu'ils participent d'ici la fin du mois de janvier.
Oui, c'est-à-dire que il faut voir que notre processus est un petit peu particulier. Il n'est pas tout à fait comme une primaire qui serait organisée par un parti ou par plusieurs partis. Puisqu'on sait très bien que quand la société civile s'organise, même si elle est forte de 300 000 signatures, de mouvements de pression, puisqu'on a été faire des sit-ins devant les différents rassemblements et meetings des différents candidats, on leur a mis la pression, mais on sait très bien que s'ils ont décidé d'être tout seuls dans leur couloir, c'est toujours difficile de passer d'une course où il y a tout le monde au départ et un gagnant ou une gagnante à une course de relais. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire que vous arriviez à vous entendre pour participer ou pas, de toute façon, on fera un vote. Donc on a identifié quels étaient les candidats qui étaient compatibles avec ce socle, puisqu'ils ont participé à son élaboration. Et maintenant, on dit, quoi qu'il arrive, du 27 au 30 janvier, on va faire un vote pour que toutes les Françaises et les Français qui adhèrent à l'esprit de ce socle commun et qui ont envie d'un rassemblement pour gagner à minima le passer au deuxième tour et gagner la présidentielle, eh bien vont pouvoir venir voter sur le site de la primaire populaire pour départager ces candidats et ces personnalités qui sont candidates à la présidentielle et choisir, comme un grand sondage finalement, mais un sondage auprès de personnes qui veulent le rassemblement, quelle sera la meilleure personnalité, la meilleure personne pour le porter. Donc là, on demandera effectivement à cette personne, si elle se reconnaît bien effectivement dans le socle, eh bien, de le dire et on lui apportera notre soutien.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que par exemple Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, leur nom sera présent dans la primaire, même s'ils disent qu'ils ne veulent pas y participer?
Tout à fait, puisque il faut voir la primaire populaire comme une grande investiture. Une investiture populaire dans laquelle les citoyens qui veulent le rassemblement, eh bien, investissent la personne qu'ils pensent la mieux placée pour gagner. Mais nous, on le dit aux candidats, on le dit à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a des échanges réguliers, bien sûr, avec les équipes, ils suivent ce qui se passe. On le dit à Jean-Luc Mélenchon, on le dit à Yannick Jadot. Si vous pensez que vous êtes aujourd'hui les mieux placés pour porter ces idées, eh bien, participez à la primaire, reconnaissez-en le résultat, et si vous êtes le mieux ou la mieux placée pour le faire, eh bien, vous gagnerez, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que finalement, bon, aujourd'hui, on dit, voilà, dans les sondages, j'ai un point de plus, un point de moins, j'ai commencé mon programme avant, après, très bien. Mais aujourd'hui, plutôt que de faire des grandes annonces qui disent c'est moi qui suis le mieux placé ou la mieux placée, eh bien, venez participer au processus. Et si vous êtes le mieux ou la mieux placée, eh bien évidemment, tout le mouvement suivra et renforcera vos chances de gagner.
Le risque pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, c'est de perdre cette primaire et de se voir contraint de se retirer.
Bah oui, bien sûr. Mais en même temps, le risque pour Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, c'est de perdre la présidentielle et de ne pas passer au deuxième tour. Donc le risque, il est là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'est pas là pour diviser. Ils sont déjà divisés. Nous, on est là pour essayer de redonner un espoir quant à un rassemblement possible. Et on est conscient sur le fait que ça peut advenir parce que certains candidats et certaines candidates ont déjà exprimé le fait que finalement c'est peut-être la seule solution. On pense bien sûr à Anne Hidalgo qui jusqu'à il y a quelques jours disait encore que elle n'y songeait pas et puis finalement a compris que c'était une initiative qui pouvait permettre d'aller plus loin en étant regroupée. Christiane Taubira aussi a fait des annonces et s'est dite favorable à la primaire populaire. Et bien sûr, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et les autres, la porte leur est toujours ouverte et le fait qu'ils ne décollent pas dans les sondages devrait les pousser à y réfléchir. J'ajoute un point, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que la primaire populaire, en tant que grande investiture, n'est pas un vote classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un vote où on en choisit un ou une et les autres sont de fait éliminés. C'est un vote qui est sous un mode de scrutin qui s'appelle le vote au jugement majoritaire. C'est-à-dire qu'on va donner une mention à tous les candidats et toutes les candidates, une mention qui va de excellent jusqu'à à rejeter, excellent, bien, passable, insuffisant, à rejeter, ce qui permet à la fin, non pas d'avoir un gagnant et que des perdants, mais d'avoir une vision très claire de quelles sont les personnalités qui sont, je dirais pas préférées, mais qui ont le plus de sentiments positifs ou le plus d'approbation. Et donc l'objectif de ça, c'est de leur dire, bien regardez, vous allez pouvoir vous classer, vous allez pouvoir qui sera le chef ou la chef d'équipe pour nous faire gagner en 2022, mais c'est bien une équipe et vous pourrez voir les dynamiques et vous pourrez vous rendre compte que celui qui gagne est peut-être vraiment à quelques pas du numéro 2, de la numéro 2, de la numéro 3, etc.
Donc il ne s'agit pas d'éliminer, mais de rassembler, même si effectivement il y aura un candidat unique.
Eh bien, c'est notre objectif, bien sûr, c'est notre objectif.
Alors, même s'il y a un socle commun, il y a des sujets de divergence entre les candidats Victor Grèze. Je pense par exemple au nucléaire. Les communistes ne veulent pas qu'on démantèle le parc nucléaire, contrairement aux écologistes. Comment dépasser ces divergences dans le cadre de cette primaire populaire ?
Ben justement, c'est tout l'intérêt. Alors si il n'y avait aucune divergence, vraiment, il n'y aurait aucun sens à ce qu'il y ait des candidatures séparées, à moins que ce ne soit que de l'ego. Donc heureusement que dans toutes ces sensibilités-là, il y a des points de divergence. Vous avez cité le nucléaire, il y a aussi la question de l'Europe, il y a aussi la question de la santé, du pass sanitaire, du pass vaccinal, etc. Il y a bien sûr plein de sujets qui ne font pas l'unanimité. C'est pour ça qu'on a fait un socle commun et qu'on n'a pas fait un programme commun. On a fait un socle commun avec un certain nombre de points qui sont une boussole. Alors vous parlez des questions environnementales. On appelle ça des grandes ruptures, hein, les 10 mesures de rupture du socle commun de la primaire populaire. La rupture numéro 2, c'est dans tous les cas de faire une vraie loi climat pour reconvertir notre économie et accompagner nos entreprises dans la transition. Ça, ils étaient tous d'accord sur le principe. Ensuite, les déclinaisons et la question du nucléaire, on va organiser des débats, on va leur proposer de venir participer à des débats, et c'est justement pour ça que le vote permettra de séparer les différentes solutions qui sont proposées dans cet objectif qui est partagé. Donc, bien sûr qu'il y a des divergences, et ça va être l'occasion de les exprimer, ça va être l'occasion pour les Françaises et les Français de voter à la primaire populaire en conscience, pour choisir quelles sont les subtilités qu'ils préfèrent entre telle et telle solution.
Donc le mois de janvier sera extrêmement intense au sein de la primaire populaire. Vous souhaitez organiser des débats dès le début de l'année prochaine ?
Tout à fait. Alors si on veut être vraiment transparent, on peut dire que c'est intense au sein de la primaire populaire depuis pas mal de temps déjà, puisque pour arriver à mobiliser 300 000 citoyens et citoyennes, on a des forces, notamment bénévoles, sur l'ensemble du territoire qui s'activent depuis des mois et des mois. Ça trouvera son apogée effectivement en janvier avec des débats qu'on va essayer d'organiser. En tout cas, on travaille déjà avec différents médias pour les mettre en place. Et donc, on va proposer aux candidates et aux candidats d'y participer. On a bon espoir que ça puisse advenir. De toute façon, dans tous les cas, que ce soit primaire populaire ou pas, il y a un intérêt à ce que les candidats de gauche débattent pour justement exprimer les points de divergence et les points de convergence. Et donc, effectivement, ça va être très actif. Mais là, notre priorité, c'est que les gens s'inscrivent pour participer à la primaire populaire, puisque on va en reparler, j'imagine, mais le vote aura lieu du 27 au 30 janvier et les inscriptions, donc, en ligne, se clôturent le 23 janvier. Donc il est très important que toutes les personnes qui aient envie de participer, même si le vote est gratuit, il faut s'inscrire avant, et donc qu'elles puissent aller sur le site primairepopulaire.fr et s'inscrire au vote sur une procédure sécurisée, hein, où on demande de vérifier l'email, le téléphone, etc., pour pouvoir s'inscrire.
Alors justement, quelles sont les conditions pour pouvoir voter à cette primaire populaire ?
Alors les conditions, c'est d'être de nationalité française, c'est d'avoir 16 ans ou plus, puisque dans les mesures du socle commun, il y a une réflexion à ouvrir sur le droit de vote à 16 ans. Donc être de nationalité française, avoir au moins 16 ans, adhérer à l'esprit du socle commun de la primaire populaire qu'on retrouve sur le site, et puis bien sûr s'engager à ne voter qu'une seule fois et à ne s'inscrire qu'une seule fois.
La gauche a toujours été favorable au droit de vote des étrangers aux élections locales. Est-ce qu'on peut voter à cette primaire même si on n'a pas la nationalité française ? Pourquoi ne pas avoir accordé le droit de vote aux étrangers lors de cette primaire ?
Alors c'est une bonne question. On a beaucoup réfléchi sur ce sujet-là, et parce que les étrangers aujourd'hui n'ont pas le droit de vote à l'élection présidentielle, il nous a semblé important, pour ne pas que des forces qui voudraient nous décrédibiliser plus que de raison s'attaquent à notre processus en le disant non légitime parce qu'il serait... il serait utilisé ou manipulé par des personnes qui ne sont pas françaises. Il nous a semblé nécessaire pour cette première grande expérience populaire et citoyenne démocratique de coller au maximum entre le socle électoral de notre primaire et le socle électoral qui votera à la présidentielle. On ne voulait pas se retrouver avec des gens qui disent on ne reconnaît pas vos résultats puisque les gens qui ont voté à votre primaire ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent voter à la présidentielle, ce qui n'est pas la même chose que pour les 16-18 ans, puisque déjà une grande partie des gens qui ont entre 16 et 18 au moment de la primaire auront 18 ans au moment de la présidentielle, et puis parce que de toute façon ce sont des gens qui rentreront dans le corps électoral dans moins de 2 ans.
Victor Grèze, pourquoi avez-vous décidé de n'organiser qu'un seul tour ?
Eh bien, tout simplement parce que le vote au jugement majoritaire, comme je l'expliquais tout à l'heure, est un mode de scrutin qui est beaucoup plus intéressant que le scrutin uninominal à deux tours, qui est celui classique qu'on connaît pour les votes à la présidentielle, etc. Et que ce système de vote, eh bien, n'a pas besoin d'avoir deux tours, puisqu'il suffit d'un seul tour où on exprime son approbation ou sa désapprobation sur chaque candidat et candidate, et donc il n'y a pas besoin de le faire deux fois de suite, on le fait une seule fois et on voit bien quel est le candidat ou la candidate qui a la meilleure, c'est ce qu'on appelle la meilleure mention majoritaire, c'est-à-dire qui a le plus fort taux d'approbation parmi les votants, et ça permet de ne pas avoir à faire de vote utile, un premier tour où on choisit, un deuxième où on élimine, c'est quelque chose qu'on entend parfois sur ce type d'élection, au premier je choisis, au deuxième je suis contraint d'éliminer celui que je ne veux pas, et puis il n'y a pas besoin de voter blanc également, puisqu'on nous donne la possibilité de s'exprimer sur chaque candidat. Et si aucun ne nous plaît, eh bien on peut mettre à rejeter pour tous les candidats si vraiment aucun ne nous plaît. Donc c'est vraiment un système de vote beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lisible, et c'est quelque chose qui doit permettre, s'il était mis en place à grande échelle, de réduire l'abstention. De plus en plus de structures utilisent ce type de vote. Le budget participatif, par exemple, dans la ville de Paris, utilise ça aujourd'hui. Et à peu près tous les partis politiques l'ont déjà mis en place, notamment pour des votes en interne. Et donc ça fait partie des innovations démocratiques du processus.
Merci Victor Grèze. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle vote de la primaire populaire. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.